tous les feux de midi s'emparent de la forme vacillante de Marie. Son visage s'embrase, son jeune corps lutte et se cramponne à un équilibre de plus en plus fragile. Autour d'elle, le périmètre déserté ressemble à une piste de cirque soumise aux implacables projecteurs d'un soleil incandescent. L'été se déploie avec faste. Le ciel marivaude, rieur, quelques nuages laiteux flottent, allègres, avant de se dissoudre lentement dans la nappe lisse et bleue. La nature est au calme, sereine, les oiseaux sont désertés. De ténébreux insectes invisibles, casqués comme des belligérants de science-fiction, munis de terrifiantes antennes, poursuivent sous terre leur sombre destin de prédateurs. À leur image, les hommes armés, belliqueux, se sont remis une fois de plus en état de guerre et de carnage. Ici, comme en d'autres régions, chacun retrouve des raisons de haïr, de châtier, de massacrer. Avec ses bottes gigantesques aux semelles de plomb, l'histoire rabâche, broyant sur son passage, des hommes et leurs lieux. Sous le soleil féroce, rapace, Marie se débat. Marie sermonne son corps, lui ordonne de faire face, de lutter. Par moments, ce corps se disloque, les genoux cèdent, le torse se courbe, la nuque ploie. Le sol l'aimante tout entier vers une chute inexorable, un puits sans fin. Marie reprend les rênes, se ressaisit, tient tête à cette chair en perdition. Sa pensée se mobilise, interroge, inspecte les muscles, les tissus qui se relâchent, les mains qui s'amollissent, les pieds qui glissent. Elle tente de se rassurer, se persuade qu'elle parviendra à tout dominer, à soumettre cette charpente à sa volonté, à son désir violent d'avancer et de se garder en état jusqu'à la rencontre. Elle le dirigera ce corps, il se dressera sur ses deux jambes. Celles-ci se mobiliseront pour franchir la distance, pour traverser le temps qui sépare Marie du pont et de son amour retrouvé. Marie déploie sa volonté, toute son habileté. Elle parle à son corps et le flatte. « On y va ensemble, tu n'abandonnes jamais, tu es solide, tu es fait pour durer. » Elle lui parle comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, comme si la chair et l'esprit étaient soudain séparés et qu'il lui fallait à tout prix les rassembler, les réunir pour vivre encore, pour vivre. Elle songe à emprunter des raccourcis, sans doute plus périlleux que cette large rue déserte qui file en ligne droite jusqu'au fleuve, mais où une balle risque encore de l'atteindre. Elle connaît à fond cette cité, elle y est née et y travaille depuis plus d'un an comme reporter photographe, ses déplacements à travers d'étroites ruelles, elle saurait en venir à bout. Mais le sang coule largement de sa blessure, au dos de son chemisier jaune qu'elle vient de tâter une fois encore, la tache rouge s'agrandit, s'amplifie. Elle veut toujours l'ignorer, elle l'ignore. C'était loin, c'était jadis, il y a plus de 20 ans. À 30 ans, on peut déjà dire. Il y a 20 ans, je faisais ceci, j'étais avec cela. Les chiffres impressionnent toujours. Avec le temps, on s'y habitue peut-être. Il faut peu à peu s'y faire pour plus tard, pour après, quand viendra la vieillesse. C'était loin jadis. Ici, dans ce pays méditerranéen de leur enfance, avant qu'ils n'émigrent vers l'Europe tous les deux. Un grand mariage, celui du frère aîné de Steph. La cérémonie religieuse fut suivie d'une réception dans la vaste maison familiale. Orchestre, buffet, boissons, vœux et plus d'une centaine d'invités. Cela brillait, résonnait en sonorités et en couleurs. Des femmes en robe de joie aux étoffes mouvantes et bariolées, des hommes en costumes sombres, rayés, qui mettaient leur coquetterie dans le choix de leurs cravates, ramené de Londres ou de Paris. Steph avait 10 ans. En minaudant, une jeune femme lui avait tendu un verre de champagne. La liqueur lui avait plu. Il avait bientôt vidé le fond d'autres verres abandonnés sur les tables. Marie, entraînée dans ce lieu par ses parents, amie des jeunes époux, avait résisté avant de venir. « Tu t'amuseras, il y aura des enfants de ton âge », insistait sa mère. À la fois égayée et surpris par l'effet de la boisson, Steph se dirigeait en titubant vers le large escalier de marbre qui grimpait vers les chambres. Marie l'aperçut tandis qu'il s'effondrait avant d'atteindre les premières marches. Elle courut vers lui pour l'aider à se relever. Il la repoussa. « Je me relève tout seul, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. » S'accrochant à la rampe, il entama sa montée. Elle le suivit des yeux tandis qu'il gravissait dignement les marches. Arrivé au premier palier, il se retourna. Toujours cramponnée à la rampe, il la salua de sa main libre. « Amuse-toi !» lui lança-t-il. Elle remarqua son sourire moqueur, son regard fulgurant. Toutes ces mondanités ennuyaient Marie. Cette mise en scène, la robe à traîne, les falbalas, ensuite le babillage des invités, les compliments du bout des lèvres, la mariée est si belle, les parents si émus, que de fleurs, quel magnifique buffet, tout ça a dû coûter des sommes fabuleuses, ils en ont les moyens. Marie se sentait encerclée, prise dans les filets d'un monde de convenance. Oh, je ne me marierai jamais comme ça, se promettait-elle. Des adultes s'approchaient, la harcelaient de questions. Elle se sentait ridicule, engoncée dans cette robe de taffetas blanche et rose. Oh, je ne m'habillerai plus jamais comme ça. Comme tu as grandi, quel âge as-tu? À qui ressembles-tu? Je crois que c'est à son père. Non, à sa mère, plutôt à sa grand-mère. À quelle école vas-tu? Qu'est-ce qui te plaît? L'histoire, la géographie, les rédactions? Fais-tu de la danse? Personne ne se souciait de ses réponses. Suivaient alors des baisers vite donnés, vite reçus, vite oubliés. Elle eut envie de fuir, puis l'orchestre se mit en branle. Alors Marie écarta les bras, se dressa sur la pointe des pieds et s'envola. Se faufilant parmi les danseurs, elle virevolta comme une hélice. Les yeux mi-clos, Marie improvisait sa danse, inventait sa liberté. Marie tournait jusqu'au vertige. C'était bien, c'était bon, elle se sentait dans sa peau. Le rythme s'emparait de son corps, de son souffle, elle était ailleurs, ça ressemblait au bonheur. Attirée par la musique, Steph était lentement revenu. Assis sur les dernières marches, il regardait Marie tourbillonner parmi la foule. Cette danse solitaire, enjouée, désinvolte, lui avait plu. Il se retint pour ne pas applaudir. L'un et l'autre ne devaient plus se revoir avant une dizaine d'années. Marie a du mal à garder les yeux ouverts. Elle tente de maîtriser son regard. Malgré ses paupières se rabattent. Elle se concentre sur ses yeux et cherche à les imaginer globuleux, puissants comme des phares. Elle les écarquille, elle compte sur eux, elle les souhaite éveillés, vigilants. Elle a besoin qu'ils la guident et la conduisent jusqu'à Steph. Peu à peu, il lui faut admettre qu'elle ne pourra pas résister plus longtemps à l'écroulement. Son attention se dilue, son corps devient flasque, spongieux. L'évidence qu'elle rejette s'impose. La balle s'est logée entre ses épaules, la blessure pourrait être fatale. Elle commence à se l'avouer. Il lui reste tout juste le temps d'avancer lentement, obstinément, pas à pas vers Steph et de crier dès qu'elle l'apercevra. « Je suis là, je suis venue, je t'aime, je t'aime !» Peut-être qu'alors, la vie refluera de nouveau. Ou bien pourra-t-elle au moins mourir entre ses bras. Malgré leurs conflits, leurs disputes, leurs séparations, malgré les étapes parfois chaotiques de leur relation, malgré leurs brouilles, leurs tohu-bohu, leurs controverses, il s'était un jour promis de ne pas disparaître sans s'être retrouvé. Au moment les plus abrupts, les plus tumultueux, il renouvelait cette promesse. « Quels que soient nos chemins, au dernier jour, je serai auprès de toi. Moi aussi. » Il riait pour dissiper le ton mélodramatique de ses paroles. Il riait beaucoup d'eux-mêmes et de l'existence. Il se sentait plus vivant, plus invulnérable grâce à ce serment, à ce filin d'acier qui les reliait à jamais. L'existence en devenait aventureuse mais apaisante, audacieuse mais protégée. Au loin, des coups de feu crépitent. Une rafale, une autre, puis une autre encore. Depuis un mois, la ligne de tir s'était pourtant éloignée de ce quartier. Parfois, quelques francs-tireurs, nichés entre les ruines, prennent plaisir à une chasse individuelle, compétitive, aussi enivrante que celle d'un chasseur à l'affût du gibier. Ces combattants solitaires arborent des allures de chef, s'attifent de vêtements de combat, se bardent de lanières de cuir. Porter une arme leur confère un statut, flatte leur virilité. Ils ont rapidement appris à manier fusil, revolver, mitraillette, à viser de loin pour atteindre leur victime bien au centre du dos ou bien de face, en plein cœur, en pleine poitrine, touchés. Souvent, ils ignorent la cible et dans quel but ils ont cherché à l'atteindre. Tout devient prétexte à abattre, à détruire. Avoir un ennemi confère de l'importance. Chacun se prend pour un héros, se pavane en imparable guerrier. Ces combattants sans discipline inspirent la crainte et croient-ils le respect. Quel que soit leur camp, ils se sentent investis de l'approbation des leurs. Ils se jugent importants, indispensables à une cause souvent fluctuante. Certains chefs usent d'eux avec profit. Fiers à bras, bravaches, autonomes, leur propre intrépidité les exalte. Exténuée, Marie se redresse une fois encore. La rue tangue, grisaille. Avec fermeté, elle pose son pied sur le sol, fait un pas en avant, suivi d'un second, d'un troisième. Elle les compte scrupuleusement à voix haute. 7, 8, 9. Au fur et à mesure, l'air s'épaissit, l'emmaillote, l'étreint. Il lui semble marcher dans un nuage de plâtre, se cogner soudain à une palissade en papier mâché. Les poings en avant, elle attaque l'obstacle imaginaire que les forts de choc font céder. La rue s'éclaircit, se livre. Marie recompte. 10, 12, 15. Les chiffres ont du mal à prendre forme dans sa tête. Du bout des doigts, elle palpe son front, ses joues. Une ruche bourdonnante fourmille sous sa peau. Ses sensations visuelles, auditives, tactiles s'affaiblissent. Le flou, le malaise la surprennent, la stupéfient. Elle s'agrippe à l'idée de ce pont qu'il lui faut à tout prix atteindre. Cet espoir la lancine et fait surgir du fond de son être un dernier sursaut de volonté. Marie résiste à l'écroulement, à la chute, et se force à exécuter encore quelques pas. Bientôt, elle ne parviendra plus à compter, bientôt les nombres s'égareront avant de parvenir à ses lèvres. La rue se liquéfie, ondule, se dissipe. Marie étire ses bras vers l'avant, allonge ses doigts, presque en aveugle, le plus loin possible, pour amorcer un mouvement du buste et des hanches. Ses muscles l'abandonnent, sa nuque s'amollit, ses jambes défaillent, son corps redevient cotonneux, ouateux, atone. L'angoisse de ne pas arriver à l'heure, là où Steph l'attend, dans le doute, dans l'impatience, la creuse plus cruellement que cette balle logée entre ses omoplates.